Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. La transformation du lait produit par l'IPI devrait donner des avantages à la population d'Indonésie. Le président a appelé les ministres de discuter le sommet du G20. Jokowi rencontrera la diaspora indonésienne à Shanghai cette semaine. Indonésie engage à soutenir la nouvelle proposition d'inscription de Jim Yong Kim. L'Indonésie et l'Australie renforcent des communications bilatérales à Yogyakarta. Et enfin, l'investissement britannique atteint 25 millions de livres dans le domaine de l'électricité à Marunda. Voici le journal complet. L'Institut indonésien des sciences, l'IPI, renforce l'engagement de développer l'Indonésie en produisant du lait national. Le besoin du lait pour le peuple d'Indonésie continue d'augmenter. Le chef adjoint de l'IPI, Ahmadi Abbas, souhaite la présence de l'unité de traitement du lait de l'IPI puisse donner un grand avantage pour l'Indonésie dans la production de lait à grande échelle qui peut être ressentie par la communauté. Cela a été dit Ahmadi Abbas au Centre de recherche en biotechnologie de l'IPI, Cibinong, Bogor, Jawa West, lundi.
Agar ini proses ini dapat berjalan dengan baik, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia.
Pour que l'unité de traitement de lait puisse bien fonctionner, durable et bénéfique pour l'Indonésie. Nous détenons un grand mandat pour que tous les Indonésiens puissent répondre aux besoins de la consommation de protéines animales et créer une société saine et intelligente. Espérons que nos efforts pour construire un engagement commun à surmonter le problème de l'élevage peuvent donner un bénéfice optimal pour la santé de la nation de l'Indonésie. Ahmadi Abbas a déclaré que dans la transformation du lait de la production nationale, l'IPI établit également la coopération avec le secteur privé et le gouvernement local. Cela vise à promouvoir le programme de la consommation du lait pour les étudiants indonésiens. Le président Joko Widodo a appelé les ministres au palais présidentiel lundi après-midi pour discuter des préparations du sommet de G20 qui aura lieu à Hangzhou, province du Zhejiang, en Chine, les 4 et 5 septembre 2016. Les ministres qui ont été convoqués sont entre autres la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, le ministre de coordination maritime, Luhut Binsar Panjaitan, le ministre de coordination des politiques juridiques et des sécurités, Wiranto, la ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, et le ministre du Commerce, Enggar Tiasto Lukita. Après avoir été convoqué par le président, la ministre des Affaires étrangères a déclaré qu'outre assister au sommet du G20, le président Joko Widodo tiendra également un certain nombre de l'ordre du jour qui est si important au sommet. Selon elle, la réunion du président Joko Widodo avec le président chinois Xi Jinping devient la première rencontre bilatérale de deux chefs d'État qui aura lieu le 2 septembre 2016 après-midi. Madame Retno Marsudi a dit, dans cette réunion, les deux chefs d'État ne discuteront pas seulement l'économie, mais aussi d'autres questions, parce que la Chine est devenue l'un des principaux partenaires de l'Indonésie. Le 3 septembre 2016, Joko Widodo assistera à deux réunions, à savoir le forum d'affaires avec 600 à 700 hommes d'affaires de la Chine et la réunion en huis clos sous la forme d'un déjeuner avec quelques entreprises d'État de la Chine. La ministre Retno a affirmé que les 4 et 5 septembre, le président sera pleinement au sommet du G20. Le sommet se composera de 5 sessions et Joko Widodo sera conférencière lors de la deuxième session. Le sujet non économique qui sera présenté par Joko Widodo est la lutte contre le terrorisme. Le président indonésien Joko Widodo rencontrera la communauté et la diaspora indonésienne à Shanghai, en Chine, samedi le 3 septembre, avant le sommet du G20 à Hangzhou, province du Zhejiang, en Chine, les 4 et 5 septembre 2016. Le consul général de la République d'Indonésie à Shanghai, Siti Nugraha Maulidia, dans sa déclaration écrite, a dit que l'événement intitulé « Réunion des gens avec le président indonésien » aura lieu dans le bâtiment du consulat général de la République d'Indonésie à Shanghai. Le président Joko Widodo prononcera son discours dans le forum Business 20 qui sera également tenu à Shanghai le même jour. Le président arrivera à Hangzhou vendredi cette semaine de tenir immédiatement une réunion avec le président chinois Xi Jinping pour discuter des relations entre l'Indonésie et la Chine. Le gouvernement indonésien via la ministre des Finances a fourni le soutien pour la nouvelle proposition d'inscription de Jim Yong Kim comme président de la Banque mondiale pour une période de 5 ans de 2017 à 2022. Comme cité par Antara Langdi, Jim Yong Kim est apte d'être un nouveau président de la Banque mondiale car il est en mesure de répondre aux défis du développement économique dans les différents pays membres, d'amener la Banque mondiale plus proche aux pays en développement et d'encourager la durabilité des programmes pour les domaines de l'éducation, la santé, la lutte contre la pauvreté, la protection sociale et l'égalité des sexes. En outre, il est en mesure de créer la communication et la coopération adéquate avec les banques régionales de développement pour penser conjointement et aider le développement économique dans tout le monde. En globalement, le gouvernement indonésien encourage la Banque mondiale à continuer de soutenir les intérêts des pays en développement et de devenir une meilleure institution et plus puissante dans le financement du développement et de promouvoir des connaissances avec les pays en développement. L'Indonésie et l'Australie se sont engagés à renforcer les communications bilatérales et de cartographier la possibilité de la coopération en organisant le troisième dialogue l'Indonésie-Australie qui a eu lieu du 29 au 30 août. Le président du Forum de dialogue Indonésie-Australie, Hamzah Tayeb, à l'ouverture du dialogue à Yogyakarta, lundi, a déclaré que le dialogue visait à établir la communication avec la question politique, économique, l'innovation, la science et la technologie. Selon Hamzah, le dialogue est différent du dialogue officiel au niveau des gouvernements des deux pays. Il est une continuation du dialogue entre l'Indonésie et l'Australie à Jakarta et Sydney, Australie, qui a réuni les milieux non gouvernementaux comme des universitaires, des entrepreneurs et des journalistes. L'ancien ambassadeur de la République d'Indonésie au Royaume-Uni et la République d'Irlande a déclaré que le dialogue l'Indonésie et l'Australie a été participé par 20 délégués de l'Australie et de l'Indonésie et va produire des recommandations présentées au gouvernement des deux pays. Le directeur exécutif du Centre d'études stratégiques et internationales, CSIS, Philippe Vermont, a dit dans la première session du dialogue sur la politique, il renforce la compréhension que l'Indonésie et l'Australie sont les deux pays qui soutiennent la démocratie. L'entreprise de fournisseurs d'énergie temporaire de la Grande-Bretagne, Angreco, a investi de 25 millions de livres dans la construction du dépôt à Marunda, Jakarta. l'envoyé spécial du premier ministre britannique pour le commerce et l'investissement, Richard Graham, a déclaré lundi à Jakarta que cet investissement était l'engagement du Royaume-Uni à l'Indonésie après le président Joko Widodo a visité la Grande-Bretagne en avril 2016. Selon Richard Graham, le dépôt qui va commencer à fonctionner à la fin septembre 2016 peut aider à répondre aux besoins énergétiques et soutiendra le programme du gouvernement afin de développer Jakarta et centre de formation pour les communautés environnantes. Selon le directeur régional de l'Asie du Sud, d'Angreco, Radhakrishnan Viswanathan, le dépôt qui va construire peut fournir l'électricité de 100 MW. Serge Ritor, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Cinquième longtemps, après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre, la journée internationale des personnes disparues. Chaque 30 août est toujours célébré comme Journée internationale des personnes disparues. Habituellement, à cette date, les gens qui sont engagés dans la communauté des droits de l'homme dans certains pays, en particulier dans les pays qui ont subi une mauvaise expérience à la disparition de la vie par la force, commémorent avec diverses activités telles que sous la forme des séminaires, discussions, projections de films, manifestations et protestations. En Indonésie, chaque année depuis l'an 1998, la Commission pour les personnes disparues et les victimes de la violence, CONTRAS, et les relations familiales des personnes disparues ont toujours tenu une célébration. Ceux qui sont victimes des personnes disparues par la force sont ceux qui sont soupçonnés de mettre en danger le gouvernement au pouvoir à ce moment-là. Certaines personnes sont également considérées comme dangereuses parce qu'ils sont censés connaître quelques incidents violents et craignent de divulguer ce qui est vu ou connu. En outre, il y a aussi des victimes en raison de motivations politiques. Au moins, CONTRAS a noté de 1965 à 2003, il y avait eu une série de tragédies de disparition forcée en Indonésie où le nombre de victimes a atteint jusqu'à 1292 personnes provenant de divers milieux tels que la politique, la religion, la profession, y compris les victimes de la politique puissance de l'État comme les victimes du 27 juillet 1996 et les émeutes en mai 1998. D'un point de vue juridique, les personnes disparues par la force sont déjà incluses dans la catégorie des crimes contre l'humanité et de graves violations des droits de l'homme. Il a été stipulé dans la loi numéro 26 en 2000 sur la Cour des droits de l'homme. Ce crime doit être résolu par les tribunaux des droits de l'homme ad hoc qui est procédé par une enquête appelée Pro-Justice et formée par la Commission nationale des droits de l'homme. Il y a eu de nombreuses victimes et le règlement juridique est incertain. Les victimes ne savent pas où et à qui se plaindre, de sorte qu'ils obtiennent la sécurité juridique et la justice. Le crime de personnes disparues par la force se trouvait dans divers coins du monde. Jusqu'à présent, certains pays dans le monde se grattent encore parce qu'ils ne pouvaient pas finir et fournir la sécurité juridique pour les victimes de crimes graves des personnes disparues par la force. Il est temps pour une action extraordinaire au nom de certains intérêts qui touchent facilement sa vie et arrêter à tout. Espérons qu'il n'y a plus de personnes disparues par la force dans le monde. Chers amis, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. 30 août 1912, la naissance de Raden Maladi. Il est l'un des fondateurs de Radio République Indonésia. Certaines postes et tâches importantes ont été réalisées par Maladi. De 1959 jusqu'à 1962, maladie a servi comme ministre de l'Information. De 1962 jusqu'à 1967, il a été ministre du Sport. Dans la jeunesse, Maladie était un joueur de football. Il a servi en tant que président de l'Association de football de l'Indonésie, ou PSSI, remplacé Insinyur Suratin. Le président l'a nommé ministre des Sports. Maladie a reçu plusieurs honneurs de l'État ou de la communauté internationale. Le 30 août 1991, l'Azerbaïdjan proclame son indépendance. République d'Azerbaïdjan est un pays dans le Caucase, au carrefour de l'Europe et de l'Asie du Sud-Est. L'Azerbaïdjan est bordé par la Russie au nord, la Géorgie et l'Arménie à l'ouest et l'Iran au sud. L'Azerbaïdjan est un État laïc et a été membre du Conseil de l'Europe depuis 2001. Ce pays fait partie de l'Empire perse Safavide au cours du XVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Après la guerre russo-persane entre l'Empire Qajar persan comme Ganja, Guba, Baku et l'Empire russe, l'Azerbaïdjan a été saisi Russie par le traité de Gulistan en 1813 et l'accord de Turkmenchay en 1828. Le 30 août 1999, les gens du Timor oriental ont participé au référendum sur l'indépendance. Timor oriental faisait partie de la République unitaire d'Indonésie de 17 juillet 1976 jusqu'à 19 octobre 1999. À cette époque, le Timor Leste était la 27e province de l'Indonésie. Timor oriental a intégré avec le territoire de la République d'Indonésie après être colonisé depuis le 16e siècle par le Portugal. Le territoire de cette province couvre la partie orientale de l'île de Timor, l'île de Kambing ou Atauro, l'île de Jaco et une esclave dans la partie occidentale du Timor qui est entourée par la province de Nusa Tenggara Oriental. Le 20 mai 2002, le Timor oriental est devenu un État indépendant. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « Deux étudiantes indonésiennes en Turquie ont été libérées ». Des différentes approches et des communications entre l'ambassade d'Indonésie à Ankara, en Turquie, avec le ministère des Affaires étrangères et les autorités turques ont produit un résultat. Deux étudiantes indonésiennes telles que Dwi Puspa Ariwijayanti provient de Demak et Yumelda Ulari Afrilian provient d'Aceh, qui ont été arrêtés par les forces de sécurité turques dans la ville de Bursa, ont été libérés. Selon le directeur de la protection des citoyens indonésiens et l'assistance juridique indonésie du ministère des Affaires étrangères, M. Muhammad Iqbal, tous les deux ont été libérés parce qu'elles ne sont pas prouvées d'avoir des liens avec des groupes Hizmet, ou souvent appelés Fethullah Gulen. Le gouvernement turc a accusé Gulen d'avoir initié une tentative de coup d'État le 15 juillet. Les deux étudiantes indonésiennes ont été données directement par le procureur de la Turquie le jeudi 25 août 2016 aux fonctionnaires consulaires de l'ambassade d'Indonésie qui est venu à la ville de Bursa. Selon Lalu Muhammad Iqbal, actuellement les deux étudiantes à la résidence de l'ambassadeur d'Indonésie à Ankara. L'ambassade d'Indonésie continue à communiquer avec le gouvernement de la Turquie afin d'assurer la sécurité de tous les citoyens indonésiens en Turquie. L'ambassadeur d'Indonésie à Ankara, M. Wardana, a déclaré que les deux étudiantes indonésiennes sont en bonne santé. Elles ont été arrêtées le 11 août 2016. Par le gouvernement turc, la fondation a été blâmée comme l'un de l'organisation formée par les participants de Fethullah Gulen. Les deux étudiantes ne sont pas la cible des forces de sécurité, mais parce qu'elles sont dans une maison avec plusieurs personnes étant ciblées, alors elles ont été arrêtées. Elles ne sont pas impliquées à Fethullah Gulen et elles ne reçoivent que la bourse de la fondation Passiat. Concernant le problème, l'ambassade d'Indonésie à Ankara fait appel aux étudiants indonésiens pour éviter le contact avec ceux qui sont affiliés à Fethullah Gulen et sortis des activités qui sont gérées par des groupes liés à cet ulema. Wardana a déclaré que 35 étudiants et boursiers de la Fondation Passiat sont logés à la résidence de l'ambassadeur d'Indonésie à Ankara. En plus de la raison de sécurité, ils ne reçoivent plus d'argent de bourse de la Fondation Passiat. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré qu'il a eu des entretiens avec le ministre de l'Éducation et de la Culture, le ministre des Recherches technologiques et l'Enseignement supérieur et le chef de l'Institut de gestion de fonds de l'éducation pour réfléchir à la poursuite de l'éducation des étudiants qui ne reçoivent plus de bourses du gouvernement de la Turquie. Chers amis, c'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
L'Institut indonésien des sciences, LIPI, renforce l'engagement de développer l'Indonésie en produisant du lait national. Le besoin du lait pour le peuple d'Indonésie continue d'augmenter. Le chef adjoint de LIPI, Ahmadi Abbas, souhaite la présence de l'unité de traitement du lait de LIPI puisse donner un grand avantage pour l'Indonésie dans la production de lait à grande échelle qui peut être ressentie par la communauté. Cela a été dit Ahmadi Abbas au Centre de recherche en biotechnologie de LIPI, Cibinong, Bogor, Jawa West, lundi.
Agar ini proses institusi ini dapat berjalan dengan baik, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia.
Pour que l'unité de traitement de lait puisse bien fonctionner, durable et bénéfique pour l'Indonésie. Nous détenons un grand mandat pour que tous les Indonésiens puissent répondre aux besoins de la consommation de protéines animales et créer une société saine et intelligente. Espérons que nos efforts pour construire un engagement commun à surmonter le problème de l'élevage peuvent donner un bénéfice optimal pour la santé de la nation de l'Indonésie. Ahmadi Abbas a déclaré que dans la transformation du lait de la production nationale, LIPI établit également la coopération avec le secteur privé et le gouvernement local. Cela vise à promouvoir le programme de la consommation du lait pour les étudiants indonésiens. Le président Joko Widodo a appelé les ministres au palais présidentiel lundi après-midi pour discuter des préparations du sommet de G20 qui aura lieu à Hangzhou, province du Zhejiang, en Chine, les 4 et 5 septembre 2016. Les ministres qui ont été convoqués sont entre autres la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, le ministre de coordination maritime, Luhut Binsar Panjaitan, le ministre de coordination des politiques juridiques et des sécurités, Wiranto, la ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, et le ministre du Commerce, Enggar Tiasto Lukita. Après avoir été convoqué par le président, la ministre des Affaires étrangères a déclaré qu'outre assister au sommet du G20, le président Joko Widodo tiendra également un certain nombre de l'ordre du jour qui est si important au sommet. Selon elle, la réunion du président Joko Widodo avec le président chinois Xi Jinping devient la première rencontre bilatérale de deux chefs d'État qui aura lieu le 2 septembre 2016 après-midi. Madame Retno Marsudi a dit, dans cette réunion, les deux chefs d'État ne discuteront pas seulement l'économie, mais aussi d'autres questions, parce que la Chine est devenue l'un des principaux partenaires de l'Indonésie. Le 3 septembre 2016, Joko Widodo assistera à deux réunions, à savoir le forum d'affaires avec 600 à 700 hommes d'affaires de la Chine et la réunion en huis clos sous la forme d'un déjeuner avec quelques entreprises d'État de la Chine. La ministre Retno a affirmé que les 4 et 5 septembre, le président sera pleinement au sommet du G20. Le sommet se composera de 5 sessions et Joko Widodo sera conférencière lors de la 2e session. Le sujet non économique qui sera présenté par Joko Widodo est la lutte contre le terrorisme. Le président indonésien Joko Widodo rencontrera la communauté et la diaspora indonésienne à Shanghai, en Chine, samedi le 3 septembre, avant le sommet du G20 à Hangzhou, province du Zhejiang, en Chine, les 4 et 5 septembre 2016. Le consul général de la République d'Indonésie à Shanghai, Siti Nugraha Maulidia, dans sa déclaration écrite, a dit que l'événement intitulé « Réunion des gens avec le président indonésien » aura lieu dans le bâtiment du consulat général de la République d'Indonésie à Shanghai. Le président Joko Widodo prononcera son discours dans le forum Business 20 qui sera également tenu à Shanghai le même jour. Le président arrivera à Hangzhou vendredi cette semaine de tenir immédiatement une réunion avec le président chinois Xi Jinping pour discuter des relations entre l'Indonésie et la Chine. Le gouvernement indonésien via la ministre des Finances a fourni le soutien pour la nouvelle proposition d'inscription de Jim Yong Kim comme président de la Banque mondiale pour une période de 5 ans de 2017 à 2022. Comme cité par Antara lundi, Jim Yong Kim est apte d'être un nouveau président de la Banque mondiale car il est en mesure de répondre aux défis du développement économique dans les différents pays membres, d'amener la Banque mondiale plus proche aux pays en développement et d'encourager la durabilité des programmes pour les domaines de l'éducation, la santé, la lutte contre la pauvreté, la protection sociale et l'égalité des sexes. En outre, il est en mesure de créer la communication et la coopération adéquate avec les banques régionales de développement pour penser conjointement et aider le développement économique dans tout le monde. En globalement, le gouvernement indonésien encourage la Banque mondiale à continuer de soutenir les intérêts des pays en développement et de devenir une meilleure institution et plus puissant dans le financement du développement et de promouvoir des connaissances avec les pays en développement. L'Indonésie et l'Australie se sont engagés à renforcer les communications bilatérales et de cartographier la possibilité de la coopération en organisant le 3e dialogue l'Indonésie-Australie qui a eu lieu du 29 au 30 août. Le président du Forum de dialogue Indonésie-Australie, Hamzah Tayeb, à l'ouverture du dialogue à Yogyakarta lundi, a déclaré que le dialogue visait à établir la communication avec la question politique, économique, l'innovation, la science et la technologie. Selon Hamzah, le dialogue est différent du dialogue officiel au niveau des gouvernements des deux pays. Il est une continuation du dialogue entre l'Indonésie et l'Australie à Jakarta et Sydney, Australie, qui a réuni les milieux non gouvernementaux comme des universitaires, des entrepreneurs et des journalistes. L'ancien ambassadeur de la République d'Indonésie au Royaume-Uni et la République d'Irlande a déclaré que le dialogue l'Indonésie et l'Australie a été participé par 20 délégués de l'Australie et de l'Indonésie et va produire des recommandations présentées au gouvernement des deux pays. Le directeur exécutif du Centre d'études stratégiques et internationales, CSIS, Philippe Vermont, a dit dans la première session du dialogue sur la politique, il renforce la compréhension que l'Indonésie et l'Australie sont les deux pays qui soutiennent la démocratie. L'entreprise de fournisseurs de l'énergie temporaire de la Grande-Bretagne, Angreco, a investi de 25 millions de livres dans la construction du dépôt à Marunda, Jakarta. l'envoyé spécial du premier ministre britannique pour le commerce et l'investissement, Richard Graham, a déclaré lundi à Jakarta que cet investissement était l'engagement du Royaume-Uni à l'Indonésie après le président Joko Widodo a visité la Grande-Bretagne en avril 2016. Selon Richard Graham, le dépôt qui va commencer à fonctionner à la fin septembre 2016 peut aider à répondre aux besoins énergétiques et soutiendra le programme du gouvernement afin de développer Jakarta et centre de formation pour les communautés environnantes. Selon le directeur régional de l'Asie du Sud, d'Angreco, Radhakrishnan Viswanathan, le dépôt qui va construire peut fournir l'électricité de 100 MW. Serge Ritor, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chères auditrices et chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie. Pour la rubrique suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec Apprendre l'Indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie. Bonsoir auditeurs et auditrices, nous revenons dans le programme Pesona Indonesia. Aujourd'hui, on va voyager à Bali. C'est une île à l'est de l'île de Java où se trouve la capitale de la République, Jakarta. Donc, restez avec nous ici à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Outre par ondes courtes, vous pouvez également écouter notre émission via streaming audio sur www.voi.co.id. Le district de Badung à Bali est l'un des districts les plus visités par les touristes locaux et étrangers. Il existe plusieurs endroits touristiques comme la plage Kuta, le temple Uluwatu, un lieu religieux hindou qui se situe sur une falaise, Sangé, un endroit célébré par la forêt naturelle, et les singes qui y habitent, et Puri Taman Ayun, un parc patrimonial du royaume Mengwi. Il existe aussi 11 villages de tourisme qui sont très intéressants dans le district. L'un de ces villages est Charansari, dont les habitants ont réussi de développer le tourisme et l'agriculture. Ils arrivent à combiner le tourisme vert, la plantation et le centre des produits agricoles. Les touristes peuvent également faire l'équitation en profitant le beau paysage de la plage Canggu et Seminyak. Le village de Charansari, qui se trouve au quartier Petang dans le district Badung, a une superficie de 885 hectares. Il est situé à peu près de 22 km de la capitale du district Badung et 36 km de ville Denpasar, la capitale de la province de Bali. En visitant Charansari, il y a beaucoup d'activités à choisir comme le tour à dos d'éléphant, rafting, faire du vélo, trekking à travers des sites naturels, faire du produit chocolaterie et les produits culinaires spécialisés à Charansari. Si vous êtes intéressé à faire le tour sur le dos d'éléphant, vous pouvez faire un tour vers la forêt conservative. Ce sera une expérience inoubliable. Les éléphants d'origine Sumatra sont nourris par les produits agricoles originaux de Charansari, comme des herbes et des fruits saisonnières. Comme une région agricole, Badung du Nord, surtout le quartier Petang, est riche en plantations de grains de café et cacao. Ici, vous pouvez étudier tout cela concernant la cultivation jusqu'à la production de cacao, des grains aux produits prêts à consommer. Pour participer à cette production, vous pouvez visiter la cuisine de chocolaterie de Pod.
Là-bas, les chocolats viennent de la plantation originale de haute qualité de Charansari Pétang et vous pouvez même produire votre produit chocolaterie et le vendre comme un souvenir. Le village de Charansari est directement bordé par la rivière Ayung. C'est la raison de ne pas manquer de faire le rafting quand vous êtes là. Le rafting dans cette rivière prend 12 km et 2h30 de duration. Le rafting à Ayung est de niveau 3, qui signifie que c'est approprié pour les débutants. Pendant le rafting, vous allez passer le beau paysage vert autour de la rivière. Le plus intéressant encore, dans certains points, vous allez voir des sculptures sur des pierres qui représentent l'histoire de Ramayana. Cette sculpture de 200 mètres de long a été sculptée par les artistes balinais. Et puis, vous allez aussi passer près d'une cascade où vous vous sentirez comme il est en cours de pleuvoir. Chers amis, voilà Pesona Indonesia de l'édition d'aujourd'hui dont le sujet est le village du tourisme de Charansari. Nous revenons avec des sujets aussi intéressants dans la prochaine édition de Pesona Indonesia. Au revoir.
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez apprendre l'indonésien.
Bonsoir chers auditeurs et auditrices, nous revenons dans la rubrique Apprendre l'indonésien qui vous introduit les vocabulaires indonésiens et l'utilisation dans une conversation. Le sujet d'aujourd'hui est « Menanyakan lokasi » ou en français « Demander la direction ». Allons-y! Je vais tout d'abord introduire des vocabulaires et des expressions par rapport au thème d'aujourd'hui. Je vais prononcer chaque mot deux fois et vous le répéterez après.
Menanyakan. Menanyakan. En français, demander. Lokasi. Lokasi. En français, la direction. Pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan. En français, le centre commercial. Jauh. Jauh, en français, loin. Kantor, kantor, en français, le bureau. Beritahu, beritahu, en français, dire ou informer. Menyetir sendiri, menyetir sendiri, en français. Conduire. Sini. Sini. En français, ici. Belok kanan. Belok kanan. En français, tourner à droite. Lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. En français, le feu de circulation. Belok kiri. Belok kiri. En français, tourner à gauche. Jalan lurus. Jalan lurus. En français, aller tout droit. Tiga. Tiga. En français, trois. Keempat. Keempat. en français, le quatrième. Persimpangan jalan. Persimpangan jalan. En français, le carrefour. Melewati. Melewati. En français, passer. Bawah. Bawah. En français, au-dessus. Jembatan layang. Jembatan layang. En français, l'autopont. Sebelah kiri. Sebelah kiri. À gauche. Di sebelah. Di sebelah. En français, à côté de.
Bien, maintenant on va faire une conversation intitulée « Menanyakan lokasi » ou en français « Demander la direction ». Comme d'habitude, je vais prononcer lentement la conversation deux fois par phrase et vous allez donc la suivre après moi. Cette conversation entre Marie et Donny au bureau.
Ah. Donny, apakah pusat perbelanjaan Central Park jauh dari sini? Donny, apakah pusat perbelanjaan Central Park jauh dari sini? En français. Donny, est-ce que le centre commercial est loin d'ici?
B. Dari kantor kita tidak terlalu jauh. Dari kantor kita tidak terlalu jauh. En français. Ce n'est pas très loin de notre bureau.
Tolong beritahu saya untuk sampai ke Central Park. Tolong beritahu saya untuk sampai ke Central Park. En français, dis-moi donc la direction pour aller à Central Park, s'il te plaît. Saya menyetir mobil sendiri. Saya menyetir mobil sendiri. En français, je conduis ma voiture.
B. Dari sini kamu belok kanan. Dari sini kamu belok kanan. En français, d'ici tu tournes à droite. Setelah lampu lalu lintas, kamu belok ke kiri, lalu jalan lurus. Setelah lampu lalu lintas, kamu belok ke kiri, lalu jalan lurus. En français, après le feu de circulation, tu tournes à gauche et va tout droit. Setelah itu, kamu akan melewati tiga lampu lalu lintas. Setelah itu, kamu akan melewati tiga lampu lalu lintas. En français, et puis tu vas passer trois feux de circulation. Setelah lampu lalu lintas keempat, ada persimpangan jalan. Setelah lampu lalu lintas keempat, ada persimpangan jalan. En français, après le quatrième de feu de circulation, tu vas voir un carrefour. Kamu akan melewati bawah jembatan layang. Kamu akan melewati bawah jembatan layang. En français, tu vas passer au-dessus d'un autopont. Kemudian, harus belok ke kanan. Kemudian, harus belok ke kanan. En français, et ensuite, tu dois tourner à droite. Di sebelah kiri, kamu akan melihat pusat perbelanjaan besar, yaitu Taman Anggrek. Di sebelah kiri, kamu akan melihat pusat perbelanjaan besar, yaitu Taman Anggrek. En français, à ton gauche, tu vas voir un grand centre commercial de Taman Anggrek.
A. Apakah dari Taman Anggrek masih jauh? Apakah dari Taman Anggrek masih jauh? En français, c'est encore loin de Taman Anggrek?
B. Tidak. Di sebelah Taman Anggrek itu adalah Central Park. Tidak. Di sebelah Taman Anggrek itu adalah Central Park. En français, pas du tout. Central Park est à côté de Taman Anggrek.
A. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. En français, d'accord, merci.
Voilà cette édition de Apprendre l'indonésien. Espérons que cette édition soit utile pour ceux parmi vous qui veulent savoir plus la langue indonésienne. Nous vous reverrons demain avec un sujet différent. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical, un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz ou en streaming de www.vou.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons un chanteur de dangdut, King Nassar. Voici sa première chanson intitulée « Grandeur d'amour ». Bonne écoute.
Terbuai ku dibuatnya. cinta. Mahal daya cinta. Terbuatku dibuatnya. Aku tergila-gila. Akan mudahnya cinta. Kau lesana bidadari menghiasi syurga ini. Mahal daya cintanya yang abadi selamanya.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de King Nassar intitulée « Grandeur d'amour » lancée en 2016. Cette chanson raconte l'admiration de King Nassar à une personne qu'il a aimée. La chanson « Grandeur d'amour » a été composée par Ricky de la bande S2. Ce single à la nuance de dangdut arabique et correspond parfaitement au caractère vocal distinctif de Nassar. Dans cette chanson, le rythme de dangdut arabique est combiné avec dangdut moderne. La chanson « Grandeur d'amour » arrangée par Ricky de la bande S2 est plus énergique et dynamique, mais facile à écouter. Auparavant, en 2015, un chanteur avec le nom originaire Nassar Fahad Ahmad Sungkar a lancé un single intitulé « Aku Nggak Bisa Diginiin » après qu'il n'ait pas sorti ses œuvres depuis longtemps. Cette chanson a placé le chart des stations de Radio Indonésie. Bon, chers auditeurs, écoutons maintenant la chanson de Nassar intitulée « Aku Nggak Bisa Diginiin ». Bonne écoute.
Beri satu, kau minta dua. Dikasih hati, minta jantung juga. Kalau kau terus-terus begini, lama-lama ku bisa gila. Aku gak bisa diginiin. Oh,
Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec un chanteur de dangdut, King Nassar. King Nassar commence à être connu dans la musique dangdut de l'Indonésie après qu'il ait remporté le deuxième champion dans le concours de la musique de dangdut dans le pays en 2004. En 2012, il a lancé le premier single intitulé « Turbulence d'amour » composé par Adibal Shahrul. Grâce à cette chanson, Nassar a remporté quelques prix musicaux prestigieux dans le pays. En 2014, Nassar a publié à nouveau un single de dangdut intitulé « Comme éteint les lumières » composé par Pasha Ungu. Cette chanson raconte quelqu'un qui aimait son amant. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons de Nassar intitulées « Turbulence d'amour ». Bonne écoute et à bientôt.
Sejak jumpa dia di suatu pesta, apa yang ku rasa? Hatiku berbunga, lama ku mendamba gejolak asmara. Kini ku merasa padamu hai gara. Senyummu sungguh menawan, wajahmu ayu rupawan. Kemana mata memandang, hanyalah dirimu. Ku mendambang gejolak asmara, kini ku merasa padamu hai dara. Sejak jumpa dia di suatu pesta, oh, apa yang ku rasa? Hatiku berbunga, lama ku mendamba gejolak asmara. Kini ku merasa padamu hai dara. Senyummu sungguh menawan, wajahmu ayu.
Chères auditrices et chers auditeurs, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.